Bonsoir mes frères et mes sœurs. Apocalypse chapitre 1. Je commence au verset 9. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 9. Moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit, ou je fus en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandelier d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Voici la parole de Dieu. Alors rappelons-nous que le message central de ce livre est donné dans la première phrase. Ce livre est avant tout une quoi ? Une révélation de Jésus-Christ. Elle est là pour nous parler de Jésus-Christ avant tout. Et donc nous voyons Jésus-Christ dans la manière qu'il se révèle dans la parole. Il n'y a pas de mieux. Une vision personnelle ne serait pas mieux que ce que Christ nous révèle de lui-même dans la parole. Et dans les moments de crise, ou de trouble, ou de douleur, nous voyons que dans ces moments, c'est souvent les moments que Dieu choisit pour se révéler. Vous savez, Ésaïe chapitre 6, c'était l'année où le bon roi est mort, et Ésaïe est laissé, ils sont seuls, et c'est dans cette année que Dieu vient à lui pour se révéler. Ézéchiel, il est en captivité, il est très loin de Jérusalem, très loin du temple. Et c'est là que Dieu vient avec une révélation de lui-même qui est assez similaire même à ce que Jean va voir. Et Jean lui-même, il est où à l'instant de cette révélation? Il est loin de chez lui, n'est-ce pas? Il est loin de ses bien-aimés, il est loin des églises parmi lesquelles il a donné sa vie. Il est retenu sur une île à cause de sa foi en Christ. Et c'est dans ces circonstances-là que Dieu se révèle. Alors, si nous sommes dans des moments difficiles, nous savons que c'est le moment de tourner les yeux vers Christ. Et il dit au verset 12, après avoir entendu cette voix qui lui dit d'écrire à ces sept églises, et nous reviendrons une autre fois sur les sept églises, mais Il dit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Alors, la meilleure traduction est donnée en fait par la Tob ou la Bible de Jérusalem ou la Darby. Je vais vous lire la Tob. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Ou littéralement, comme est souvent le Darby, et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. C'est intéressant, non, de dire comme ça. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Alors, s'il aurait dit pour entendre, et c'est pour ça qu'on traduit différemment pour savoir quelle était la voix qui me parlait, mais littéralement, je me retournai pour voir la voix. Et on a suggéré de mettre un grand V sur le mot voir. Et je crois qu'il y a raison de le faire. Parce que Jean, le même auteur d'Apocalypse, a commencé son évangile qui porte son nom en disant au commencement était la quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean, le même Jean qui nous parle ici en Apocalypse, attire notre attention dans son évangile à cette parole divine, à la révélation de Dieu lui-même étant Dieu lui-même. Et ici, il attire, au tout début de son livre, notre attention sur la voix divine. La voix divine qui révélera le Seigneur Jésus-Christ. Cela peut nous faire penser à Genèse 3, certains l'ont suggéré. Vous savez, juste après la chute de l'homme dans le péché, l'homme est vraiment dans un piteux état. Il vient de transgresser la loi de Dieu. Il a transgressé, quelqu'un a dit, toutes les lois dans l'univers, parce qu'il n'y avait qu'une seule. Et il a peur de Dieu. Et dans ce contexte, Genèse 3, 8 dit ceci, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. » Une voix qui parcourait le jardin à la recherche de l'homme déchu. Et il est vraisemblable que la voix qui marchait dans le jardin était une apparition préincarnée de la parole, c'est-à-dire Christ lui-même qui approche. Et c'est la parole, c'est la voix qui vient à la recherche de l'homme pécheur. Et alors c'est cette même voix qui apparaît tout au début de Genèse, qui réapparaît ici en Apocalypse, le dernier de nos livres saints pour se faire connaître. Et ce qui est frappant, c'est de voir où il est. Parce que la première chose dont il nous parle, en tournant vers la voix, pour voir la voix, c'est le contexte. Est-ce que vous avez noté cela? Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix ou pour voir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, et la première chose qu'il nous dit, ne parle pas de la personne elle-même, mais du milieu dans lequel il se trouve, du domaine dans lequel il se trouve. Et il voit sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc la première chose soulignée, c'est où cette voix se trouve. La présence de la voix. Et qu'est-ce que sont ces sept chandeliers d'or? Eh bien, si vous regardez le verset 20, Apocalypse 1, il nous dit de quoi il s'agit. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges, on peut traduire les messagers des sept églises, et les sept chandeliers sont quoi? C'est les sept églises. Donc, pour donner la signification de ces sept chandeliers, Il se retourne et il voit cette église, ou ce qui représente cette église. Et au milieu de ces sept chandeliers qui représentent les sept églises, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ce sont des églises souffrantes, hein, on va lire dans la suite, ce sont des églises qui souffrent, ce sont des églises qui sont persécutées, ce sont des églises qui sont imparfaites, parfois avec des grosses lacunes même, certaines d'entre elles. Mais voici Emmanuel, Dieu avec son Église, Christ avec son peuple. Voici l'assurance que Christ demeure au sein de ses églises. Il y a juste deux choses qu'on veut considérer ce soir. Et la première, c'est la gloire de sa présence. La gloire de sa présence. C'est la première chose qui est soulignée. C'est la gloire de la présence de Christ parmi ses églises locales. Et trop souvent, si vous êtes comme moi, nous sommes comme des disciples dans la tempête qui avaient les yeux rivés sur la tempête qui faisait rage tout autour de la barque et qui oubliaient complètement la grandeur de celui qui était avec eux dans la barque. N'est-ce pas? Jésus était là dans la barque, il dormait et eux sont en train de se déchirer les cheveux, ils sont en train de paniquer parce qu'il y a la tempête. Et au lieu de regarder dans la barque, ils regardent en dehors de la barque et ils sont paniqués. J'ai lu cette semaine une histoire d'Antigone de la Grèce antique et que lorsqu'il entendait ces soldats qui parlaient tout effrayés, découragés par le grand nombre de l'ennemi, le général Antigone est venu au milieu de ses soldats et a dit « Et moi, je compte pour combien ?» Et on peut se poser la même question avec Christ. Christ, il compte pour combien ? N'est pas un tout-puissant beaucoup plus que beaucoup de puissants ? Hein, vous avez peut-être beaucoup de puissants autour, mais si on a un qui est tout-puissant, on a plus que tous les autres. Et sa présence parmi nous ne va-t-elle pas quelque chose pour nous? Christ est au milieu de ses églises. Et rappelons-nous que c'était des temps troublés, comme nous avons déjà dit, et le dernier des apôtres, sûrement on est dans les années 90, le dernier des apôtres encore en vie a été expulsé comme un sans-papier considéré comme dangereux pour l'État. On craint pour l'avenir de l'Église. L'époque des apôtres arrive à son terme. On devrait certainement se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire après que tous les apôtres soient morts? Est-ce que l'Église va pouvoir surmonter les épreuves devant elle? Et puis, les choses semblent aller de mal en pis parce qu'il y a cette persécution qui s'installe. Et même, si vous lisez un peu l'histoire de l'Église et de cette époque, la persécution était atroce, était la pire qu'elle n'a jamais été jusqu'à ce point. Et donc, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est dans ce contexte que Jésus-Christ se révèle comme étant au milieu des sept chandeliers. Alors écoutez l'encouragement qu'ont donné Caleb et Josué. Vous avez certainement lu cela tout à l'heure en Nombres 14, 19. Vous savez, tout le monde a peur, tout le monde est craintif. Personne ne veut aller en Canaan parce que l'ennemi est trop grand, trop puissant. Et il y a Caleb et Josué qui dit « Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. » C'est incroyable, hein? Le contraste. Ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous eu la même expérience. Et il y en a 10 qui se dit, non, c'est impossible, impossible, je l'ai vu de mes yeux, c'est impossible. Et il y en a deux qui disent, ben nous on a vu aussi, mais on va en faire une bouchée. On va les avaler. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Vous voyez toute la différence? L'Éternel est avec nous. Et ça change tout. Ça change tout. Donc Romains 8, 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si, vous connaissez la phrase? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est la question que Dieu veut qu'on se pose. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça me fait penser à cette histoire en Daniel 3. Même les jeunes, vous connaissez, j'imagine. Trois amis qui s'appellent comment? Shadrach, Meshach et Abednego. C'est trois amis. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les jette dans la fournaise, n'est-ce pas, qui est tellement chaud que même les soldats sont tués par la chaleur, sans toucher la flamme. Et les versets 24 et 25 disent, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux, c'est-à-dire le quatrième était bien différent que les autres trois. Il reconnaît les autres trois, mais le quatrième, il est bien différent. Et il ne peut que l'exprimer comme ceci. Ben, il a l'air d'un fils des dieux. Nous voyons ici, dans ce que Jean voit, que Christ est glorieux dans sa présence. C'est la première chose qu'il veut nous dire. Christ est avec ses églises. Jésus avait dit cela en Matthieu 28, n'est-ce pas? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, plus des dizaines d'années plus tard, Jean a cette vision, il est enlevé en esprit et Jésus-Christ lui montre que c'est là où il est. C'est sa demeure. Et bien sûr, Dieu est partout. Dieu est partout, Christ est partout. Il est infini dans ce sens. Mais Jésus lui-même a dit que là où deux ou trois sont assemblés dans mon nom, là je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire il y a une présence spéciale. C'est comme si c'est sa demeure. On peut partir le matin à l'école, au travail, mais on aime bien rentrer le soir où on sent que c'est chez nous. Mais Christ a un chez lui. Il a, si vous voulez, un temple qui est le sien. Il a une épouse qui est la sienne. Il a une demeure où il veut habiter et pour lui, c'est l'Église. Une grandeur de ce que nous sommes, une grandeur que nous devons sentir dans la présence de Christ. Donc, il y a la gloire de sa présence. Mais notez ce qu'il dit, verset 13. Quand il regarde au milieu des sept chandeliers, il voit quelqu'un qui ressemblait à quoi? Un fils de l'homme. Nous voyons la gloire de sa personne. La gloire de sa personne. Il y a la gloire de sa présence et ici il y a la gloire de sa personne. Et on va revenir plus tard sur toute cette description qui nous est donnée de ce fils d'homme de Jésus-Christ dont il parle ici. Mais on va s'arrêter ce soir sur ce titre qui lui est donné, Fils d'homme. La seule personne avec deux natures. Ici, souligner le fait que, étant Dieu, il est aussi homme. le Dieu invisible est devenu pour toujours visible dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ demeure toujours homme. Il a toujours, ce soir, il est homme. Il a deux natures dans une seule personne. Mais il faut ne pas oublier que Jésus est devenu homme, mais il est resté homme et il restera toujours homme. Ce soir, il y a un homme dans toute la plénitude de son humanité physique même, qui est à la droite de Dieu le Père. Quelqu'un a dit que la poussière de la terre est à la droite du trône de Dieu, en Jésus-Christ. Il y a un homme exalté au ciel. Et fils de l'homme, si vous lisez les évangiles, vous êtes bien familier avec ce titre, n'est-ce pas ? C'est le titre préféré de Jésus-Christ. Je crois qu'on le trouve 81 fois dans les évangiles. Et il n'y a que deux occurrences où c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. Toutes les autres occurrences, c'est Jésus-Christ qui l'utilise pour lui-même. C'est son titre préféré avec lequel il s'identifie. Une vraie humanité avec laquelle il nous connaît. Il peut, avec cette humanité, compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire Dieu, bien sûr, on dit, est-ce qu'il connaît mes faiblesses ? Oui, Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu connaît nos faiblesses en tant qu'humain aussi. C'est-à-dire, c'est une connaissance, pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance expérimentée. Il est homme, donc il connaît en tant qu'homme notre faiblesse. Il a un corps conçu dans le sein d'une jeune vierge. Et dans ce corps, il a vécu, il a grandi. Il a pris nos péchés dans ce corps. 1 Pierre 2,24 nous dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il est ressuscité aussi, corporellement, avec ce même corps. Et il est monté au ciel dans son corps. Et c'est ce même corps qui reviendra un jour. Ce même corps. Et nous voyons ici en Apocalypse, dans sa dominion, son royaume éternel, le contrôle qu'il a de toutes choses. Il est l'homme idéal, si vous voulez. Dans la chute, l'homme a perdu ce que Dieu avait pour lui. Le premier Adam a vraiment tout perdu. Mais Jésus, le second Adam, ou le dernier Adam, a repris tout ce que le premier Adam a perdu. Il est, un de mes profs utilisait cette expression hébraïque, vous savez, on parle du roi des rois, seigneur des seigneurs. Il a dit, Jésus est l'homme des hommes. Il est l'homme ultime et parfait. Tout ce qui a été conçu pour l'humanité a été accompli en Jésus-Christ. Il est le Fils d'homme. Alors juste, je crois que c'est deux passages que je veux voir. D'abord, c'est Daniel 7. Est-ce que vous pouvez trouver Daniel 7, versets 13 et 14 ? Et puis on va regarder un passage en Marc. Parce que pour comprendre ce titre « Fils d'homme » et la compréhension que Jésus avait lui-même de « Fils d'homme », il faut voir ce passage. C'est vraiment le passage clé pour comprendre ce titre. Daniel 7, verset 13. Daniel voit dans une vision, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux ». On a parlé de cela une fois quand on a parlé de Jésus qui arrive sur les nuées. On a dit que presque toutes les fois qu'on en voit les nuées, c'est la grandeur de Dieu, c'est la majesté de Dieu qui est accentuée. Jésus, par exemple, quand il monte au ciel, il monte dans cette nuée. Hein, sur le mont de Transfiguration, il y a aussi cette nuée qui le recouvre. Si vous pensez sur le mont de Sinaï, par exemple, aussi la nuée de Dieu, la présence de Dieu est donc sur les nuées des cieux, arrive à quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Vous voyez, là, on prend la même phrase qui est retrouvée en Apocalypse. Et il s'avança vers l'Ancien des Jours. Et si on aurait commencé à lire en verset 9, on aurait vu que l'Ancien des Jours, c'est Dieu ici, Dieu le Père. Donc quelqu'un différent que Dieu le Père, parce qu'il s'approche vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. C'est-à-dire, il a un accès complètement ouvert. Il peut s'approcher de Dieu. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Est-ce que vous entendez des phrases qui reviennent en Apocalypse, hein? Tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Quand vous entendez le chant de l'agneau, c'est de toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, etc. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est le Fils de l'homme. Quelqu'un qui a une approche à Dieu et à qui Dieu donne tout. Il n'y a pas plus que ça, hein? Il n'y a rien qui reste. Dieu lui donne tout. Et ceci suggère donc la grandeur de ce Fils d'homme. Il est un Fils d'homme, mais il vient dans les nuées. Donc déjà, on voit l'humanité, mais aussi quelqu'un suggéré ici, même divin. Et nous avons dans les évangiles la suggestion que le Fils de l'homme avait une préexistence. Je vous lis Marc 10, 45, qui est le verset clé de tout l'évangile de Marc. Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ou Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdu. Donc quand les évangiles parlent du Fils de l'homme, c'est pleinement compatible avec sa préexistence parce qu'il y a cette suggestion qu'il est venu, il est venu d'ailleurs même. Et il est venu avec une intention spécifique, il n'est pas venu pour rien, donc il y avait une raison pour laquelle il est venu. Ça suggère sa préexistence. Donc voyons que quand Jésus parle lui-même comme Fils de l'homme, il s'identifie avec nous, mais c'est beaucoup plus, c'est quand même un titre de gloire et d'honneur. Mais on voit aussi que le Fils de l'homme avait un futur glorieux. Et c'est là, si vous pouvez trouver Marc 14, on avait regardé une fois en Matthieu un passage qui parle du Fils de l'homme. Mais là, regardez en Marc 14, versets 61 et 62. Il est important de noter ces deux titres et le lien que Jésus fait entre eux. Je suggère même que vous les souligniez, que vous les liez d'une façon ou d'une autre. Marc 14, verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ ou es-tu le... » C'est quoi notre nom pour Christ? Le Messie, hein, le Messie ou loin de Dieu. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Alors ça c'est, notez donc ce titre, « Fils de Dieu » ou « Fils du Dieu béni ». Et Jésus répondit simplement, je le suis. Il n'y a pas de plus clair là. L'homme qui sait qu'en disant je le suis sera mis à mort, il ne dit pas ça à la légère. Il sait que ça va coûter sa vie. Donc ne disons jamais que Jésus ne s'est jamais vu comme divin. Non, il dit, je le suis. Mais notez ce qu'il dit juste après. Je suis quoi donc ici? Il dit, je suis quoi? Il dit, je suis le Fils de Dieu. Et après, il dit, et vous verrez le Fils, quoi? De l'homme assis à la droite de de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors si vous soulignez ces deux phrases, fils du Dieu béni, et puis vous liez cela au titre fils de l'homme, vous verrez que le lien que Jésus lui-même fait entre ces deux titres. Il dit, oui, je suis le fils de Dieu et je suis le fils de l'homme. Je suis les deux. Et il dit, vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Une référence à ce que nous avons vu en Daniel. Acte 7, ne cherchez pas, mais 55 et verset 56, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il est sur le point de mourir et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il voit Jésus, le Fils de l'homme, il dit, je vois le Fils de l'homme. C'est un titre que nous pouvons utiliser aussi pour Jésus-Christ. Il est glorieux, donc, dans sa personne. Je crois que nous pouvons nous arrêter là. Il y a déjà de quoi nous encourager, j'espère. Que nous avons un Christ qui est glorieux dans sa présence et glorieux dans sa personne. Nous sommes peut-être petits en nombre, nous sommes peut-être pauvres, nous sommes peut-être faibles, mais nous avons la gloire de la présence du Fils de l'homme, et nous avons la gloire de sa personne glorieuse qui est avec nous. Ce n'est pas n'importe qui est avec nous. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la foi d'accepter ces choses comme vraies, car nous pouvons sortir de cette salle et être certains comme ces Israélites qui sont restés découragés, restés déprimés, au point qu'ils ont refusé d'avancer dans la volonté de Dieu pour eux. Où nous pouvons partir comme Caleb et Josué, comme Jean, avec le courage, avec la joie, car Dieu Emmanuel, Jésus-Christ est avec nous. Donne-nous cette confiance et cette joie que ta présence nous apporte. Alors nous prions et nous offrons même ces requêtes dans son nom et pour sa gloire, car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.